Al son.
Bonjour, donc la salle 101 est toujours aux Utopiales à Nantes et nous avons juste en face de nous des membres de l'atelier de l'Antémonde qui sont les auteurs de Bâtir aussi, dont vous vous souvenez, qui était un recueil de nouvelles aux éditions Cambourakis, édité en 2018. Et en fait, on a la chance de les avoir en face de nous pour leur poser plein de questions. Et la première question, c'est le recueil de nouvelles était lié à des ateliers d'écriture, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Alors bonjour. D'abord, pour dire les auteurs, on n'est que deux ici. Et en fait, on est trois co-auteurs. Et effectivement, on est même un peu plus parce qu'on a fait quelques ateliers d'écriture et que les textes ont été nourris et documentés de plein d'autres personnes qui ont contribué plus sporadiquement, disons. Voilà, et donc effectivement, on peut dire que ces textes, ces nouvelles sont issues d'ateliers d'écriture dans la mesure où ils ont été co-écrits par nous trois, et donc toujours en forme d'atelier d'écriture puisqu'on était ensemble physiquement à faire circuler les stylos et les feuilles pour co-écrire ces textes. C'est pas chaque nouvelle est écrite par une personne, mais bien l'ensemble de ces textes qui ont été co-écrits par l'ensemble d'entre nous. Ce qui est une pratique, disons, un peu moins courante. Voilà.
Dans ce recueil-là, vous abordez un fil conducteur qui, du coup, nous place dans une utopie vers 2020. Tous les récits se passent dans cet univers-là. Comment est-ce que vous l'avez choisi ?
Alors en fait, on a, nous, commencé à écrire en 2011 et c'était à ce moment-là que se passait ce que les médias ont fini par nommer les printemps arabes, c'est-à-dire ces élans de révolte en Égypte, en Tunisie. Et un peu, c'était un de nos points de départ, de se dire tiens, mais et si ça se répandait partout ? Et si ça se répandait notamment là où on est, là où on habite, des lieux qu'on fréquente ? Et essayons d'imaginer du coup ce que ça donnerait ce monde après un basculement social majeur, après... une révolution victorieuse, la fin de l'État, le capitalisme, le salariat. Mais plutôt que s'intéresser à... En tout cas, on l'a fait un peu dans le livre, mais nous, on était très intéressés par voir non pas le moment de bascule lui-même, mais après. Une fois que ça se stabilise un peu, une fois que tout va mieux. Une fois qu'il y a assez à manger pour tout le monde, une fois qu'il y a un toit pour chacune et que du coup, on est un peu plus dans la routine.
Je peux ajouter qu'un de nos moteurs importants pour travailler sur ces textes, avant d'être la fiction en elle-même, c'était une approche sur des questions politiques et notamment sur la critique de ce qu'on peut appeler le capitalisme industriel ou techno-industriel. Et en fait, nous, donc les personnes qui ont coécrit ce livre, les trois personnes, on est amis depuis longtemps et on s'est suivis notamment dans des luttes anticapitalistes. On s'est connus au début des années 2000, dans cette période des contre-sommets. Contre le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, etc. Et sur les terrains aussi, des questions anticoloniales, antinationalistes, du féminisme, de l'accès au droit et au logement, enfin tout un ensemble de questions de justice sociale. Et aussi sur les questions dites anti-industrielles ou de critique du capitalisme industriel. Et en fait, sur ce terrain-là, il y avait des choses qui nous manquaient dans nos cercles politiques. Et notamment, on éprouvait un manque d'imbrication entre ce thème-là et tous les autres terrains de lutte et des questions de justice sociale. On ne trouvait pas spécialement pertinent de se dire qu'il faut d'abord abattre le grand ennemi qui serait le capitalisme et puis tout ira mieux, on réfléchira au reste plus tard. On avait une approche de ces questions de lutte où on voulait imbriquer tout ça. Et aussi, on était un peu méfiant de voir que dans certains cercles critiques de la société industrielle, il y avait une tendance qui nous semblait réactionnaire, en tout cas des manières de concevoir le rapport à une soi-disant nature et de renouveler les rapports sociaux d'une manière qui nous semblait plutôt réactionnaire que progressiste. Donc c'est avec ces enjeux-là qu'on a avancé dans la fiction, parce qu'on a fait un premier exercice pour se lancer dedans, qui était tout simple, un peu basique, qui était de se dire on va faire comme un catalogue, on va faire une sorte de double liste avec ce qu'on garde et ce qu'on jette. Cette démarche-là, en fait, elle nous a mis à la fiction parce qu'une des choses sur laquelle on s'est mis d'accord très très vite, c'était de se dire si on doit garder une chose, c'est la machine à laver le linge. Il n'y a pas moyen qu'on balance la machine à laver le linge. Il n'y a pas moyen qu'une certaine catégorie de personnes retourne la voir. Et du coup, c'est là qu'a commencé la fiction, puisqu'on était ensemble en cercle dans une pièce. On a mis cette machine à laver au milieu de la pièce. Et on s'est dit, mais elle marche comment? Et puis, elle a été fabriquée par qui? Et puis, elle vient d'où? Et puis, qui est-ce qui la répare? Et puis, l'électricité et l'eau qui viennent l'alimenter, ça vient d'où? Et donc, c'est en tirant ces fils-là qu'on a construit le paysage qui allait autour de cette machine à laver et qu'on s'est mis à rentrer dans un autre univers. Parce que cette démarche, sur le fond, elle partait de nous, la manière dont on articule les questions techniques à la société dans laquelle elle se déploie. On ne peut pas considérer, à notre sens, que les techniques et les technologies sont neutres. Il ne s'agit pas uniquement de bons et de mauvais usages. En fait, des technologies, elles sont produites par une société donnée. Et à leur tour, quand elles sont produites, elles vont façonner cette société. Et cet aller-retour, il est important pour avoir une analyse politique un peu fine de comment on renouvelle notre rapport aux questions technoscientifiques en général. Et voilà, et c'était le but d'aller du côté de la fiction et de l'utopie. C'était d'aller chercher si le monde qui va avec changeait, comment nos relations, questions techniques, changeraient aussi. Et inversement, si on changeait notre relation à tout ça, comment le monde serait fort différent.
Et du coup, le sens de choisir 10 ans après le basculement, c'était aussi de ne pas faire dans le post-apo. C'était de se dire, mais sur tous les objets qui ont été produits par le capitalisme et les savoir-faire qui ont été acquis, comment ça se passe avec un truc où on va pas mettre tout ça dans un terrain vague avec des champs de barbelés autour en écrivant pas touche. Et du coup, cette machine à laver, peut-être, elle c'est encore une un rescapé en fait de l'antémonde, quoi, du monde d'avant, et des gens la réparent et l'entretiennent. En tout cas, il y avait aussi cette envie de se dire, on peut garder les trucs, mais quoi?
Par ailleurs, à l'occasion en fait de la sortie de ce livre, et pas du tout d'ailleurs uniquement à l'occasion de la sortie de ce livre, très régulièrement sur votre site internet, on peut voir que vous organisez des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce qu'il y en a partout en France et à première vue, il est tout à fait facile de s'inscrire et d'assister à ça.
Alors, on va dissiper un premier malentendu, ce ne sont pas des ateliers d'écriture. On part d'un livre, certes, mais nous, on appelle ça des ateliers d'imaginaire ou des labo-fictions. Et en fait, ce qu'on a... L'écriture de Bâtir aussi, ça nous a fait, nous trois, personnellement, beaucoup, beaucoup de bien. Ça nous a donné énormément d'énergie dans notre quotidien, dans nos luttes, parce qu'on se prenait ces quelques week-ends par an à se projeter dans des futurs qui nous faisaient envie, dans des mondes désirables, et que ça nous a fait triper. Et on s'est dit, ça serait trop égoïste de garder ça pour nous. Trouvons un moyen de partager ça avec d'autres gens. Et donc, l'idée, c'est de se réunir et par la discussion, d'essayer de se... Voilà, on dessine un peu les bases de l'univers de Bâtir aussi, mais très vite, on invite les personnes qui viennent à se projeter elles-mêmes là-dedans et de voir ce serait quoi leur vie, leur quotidien, les objets qui les entourent, qu'elles manipulent, qu'est-ce qu'elles font de leur savoir-faire, c'est quoi leur soirée, comment on fait la fête, comment on soigne, comment on apprend. Et c'est un jeu. C'est un jeu qui se fait, nous on a prévu plusieurs phases, on commence à 2, puis après on est un peu plus, puis après quand on fait la forme étendue à 4 heures, on a encore un nouveau temps, on se raconte des histoires, et on voyage dans l'univers entre plusieurs groupes. Et voilà, on peut accueillir de 5 à, maintenant on a fait 70, peut-être 100 personnes dans ces moments d'imaginaire commun, et qui en général les gens repartent avec plutôt le sourire.
Peut-être ce qui est important de dire, c'est que pour nous, l'enjeu en faisant ça, c'est de, comme tu le disais, de partager l'effet libératoire que ça a eu sur nous avec d'autres, de faire ressentir à quel point c'est facile de se mettre à imaginer des choses. Et non seulement c'est facile, mais ça fait du bien, c'est amusant, mais aussi ça nous reconnecte à la réalité d'une autre manière. Et en tout cas, dans notre pratique, on s'est rendu compte que imaginer un monde à court terme qui nous irait mieux et dans lequel on vivrait, c'est le contraire de s'échapper de la réalité. C'est reconnecter avec ce qui est possible et ce dont on a envie. Et là, il y a vraiment un travail là-dedans qui nous importe très fort. Et l'enjeu, ce n'est pas du tout de se mettre d'accord. On n'est pas dans des ateliers où on va se mettre d'accord sur un univers commun. On va plutôt même mettre en scène nos désaccords. Et ça part de notre rapport à la question de l'utopie. Donc, comme tu le disais à l'instant... c'est une utopie à très court terme. On se projette en 2022, 10 ans après le début d'une révolution qui aurait commencé en 2011. Cet aller-retour entre un futur proche et un passé imaginé proche aussi, en fait, ça nous réancre au présent. Et qu'est-ce qu'on serait devenu si depuis 10 ans, ça avait commencé à changer? Donc c'est vraiment un travail de reprojection de soi-même qui réouvre vraiment le possible. Et quand on a fait ça, que ce soit en labo fiction ou auparavant dans l'écriture, à plein de moments, on n'était pas d'accord. Parce que nos mondes rêvés, nos mondes imaginés, nos désirs, nos priorités, elles ne s'expriment pas de la même manière. Et en fait, dans le jeu de l'imaginaire, ce qui est possible, c'est de mettre en scène ces désaccords. Et c'est là qu'on se met à fabriquer des histoires, à fabriquer de la dynamique narrative, mais aussi de la complexité. Parce qu'en fait, on travaille bien sûr sur des personnages qui sont contradictoires, de mauvaise foi, avec des grands angles morts. Et puis c'est ça la vie. Et à un moment, ça redessine l'utopie. Dans la fiction, c'est que l'utopie, c'est pas uniquement faire un grand programme de comment tout sera super pour tout le monde. C'est même le contraire de ça. C'est dessiner comment on va réussir à cohabiter en étant perpétuellement pas d'accord. Et perpétuellement avec les problèmes de la vie qui vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on travaille et c'est ça qu'on a appelé l'utopie merdique. En s'appuyant sur le concept de Ursula Le Guin, qui est une de nos autrices préférées. Et qui, elle, parle de utopie ambiguë. Et qui fait ce travail qu'on peut nommer d'ethnofiction, qui nous intéresse beaucoup quoi, pour travailler nos imaginaires et nos possibles politiques.
Donc le fait d'évoquer Ursula Le Guin, ça me permet de rebondir. Est-ce que vous avez aussi été inspiré par éventuellement des classiques un peu oubliés du mouvement ouvrier ? Le socialisme utopique, c'est quelque chose qui existait, qui a été peut-être un petit peu enfoui après Marx. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire ou bien à quel point est-ce que vous êtes nourri par de la science-fiction ? Donc là, on a parlé du nom de Le Guin, mais est-ce qu'il y a d'autres œuvres comme ça qui vous inspirent ?
Alors, oui, j'allais dire oui et non, mais en fait, oui et oui. On est inspiré par plein de choses, quoi. C'est sûr qu'on est grande lectrice et lecteur de science-fiction et que ce projet, il a démarré avec ça. On partait sur un texte plutôt d'ordre essai politique et on n'arrêtait pas de parler de SF. Et du coup, assez vite, on se dit non, mais en fait, on va écrire de la fiction. Donc oui, bien sûr, derrière nous, il y a plein d'auteurs de SF, que ce soit Le Guin, Leakey, Chambers, Butler, je ne sais pas, on pourrait en dire des milliers. Tu as fait une bonne liste hier, tu pourrais nous la redonner.
Ben non, mais après, il y a aussi des mecs, quoi. C'est, heureusement, malheureusement, mais Asimov, Egan, Greg Egan, Stephenson. Oui, il y en a plein.
Mais pour répondre à ta première piste qui était sur le socialisme utopique ou tout ça, bon, bah c'est sûr que c'est dans notre univers militant. Mais sûrement que ce qui nous inspire bien plus encore que tout ça, mais qui fait partie d'une culture dans laquelle on baigne, c'est aussi des pratiques. Et c'est sûr que nous trois, on est issus, on vit dans des cercles de personnes qui pratiquent, en tout cas qui essayent d'inventer, d'expérimenter des formes d'autogestion et de rapports anti-autoritaires. Que ce soit dans la vie quotidienne, dans des pratiques de lutte, dans des groupes activistes, que ce soit dans des lieux squattés, dans des fermes à la campagne, dans des quartiers en ville, bref, dans plein de choses différentes. Et ces pratiques qui sont notre quotidien de vie et de lutte, et, ben c'est, et qui sont bien sûr inspirées autant du socialisme utopique que du mouvement squat, que de la lutte féministe depuis un siècle, que de plein d'autres choses, bien sûr, c'est ça qui nous nourrit. Voilà, mais à un moment, c'est difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation populaire pour nous, cet héritage-là, de comment on développe des savoirs, des savoir-faire et des manières de les partager qui nous donnent des leviers d'émancipation pour chacune et chacun d'entre nous. Et comment est-ce qu'on part bien de l'idée qu'on ne peut pas émanciper des gens à leur place ? C'est les gens qui prennent par eux-mêmes les moyens de leur émancipation. Donc il s'agit de partager des outils, de partager des perspectives et non pas d'éditer des programmes. Voilà.
Oui, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu gauchiste quand même.
Une des références explicites qui est dans la postface, c'est Murray Bookchin, qui a donc conceptualisé cette idée de municipalisme libertaire. Et en fait, un des textes avec lesquels on avait joué avant de se mettre à écrire de la fiction, c'était un texte qui parlait de c'est ça, comment on pourrait organiser, entre autres, la production avec des régions autonomes qui se spécialisent en fonction de leurs ressources locales. Et après ce texte, donc, qui datait des années 60 et qui nous intéressait, l'idée c'était de le rééditer un moment. Mais dedans, il y a des choses qui nous paraissaient extrêmement datées, comme l'idée que chaque centre de production pourrait avoir sa petite centrale nucléaire, qui, je veux dire, avec le Bref, on va pas épiloguer, juste voilà, le nucléaire. Oui.
Qu'est-ce que vous avez contre le nucléaire?
C'est pas possible de décider pour les 800 futures générations de leur laisser sur les bras un stock de plutonium qui les tue si jamais n'importe qui en avale une goutte, quoi. Je sais pas, voilà.
Mais peut-être sur cette histoire de gauchiste pour dire, je sais pas si nous on se nommerait comme ça, mais c'est sûr qu'en tout cas on assume là où on est situé politiquement. Et par contre, c'est avec ça que ça nous intéresse de rencontrer plein de gens qui ne vont pas se situer à cet endroit-là. C'est aussi pour ça, à un moment, qu'on s'est lancé dans cette histoire de bouquin et d'essayer de le publier, de le diffuser largement. Mais aussi les ateliers, les laboratoires d'imaginaire, les labos fiction. On va vraiment à la rencontre de plein de gens, dans plein de contextes. Et ce qu'on leur propose, ce n'est pas forcément d'adhérer à nos points de vue politiques, mais simplement de faire le jeu de eux-mêmes se projeter, à se demander qu'est-ce qu'ils feraient et où ils seraient si tout changeait et qu'ils avaient plus la possibilité de faire des choses qui font sens pour eux et elles. Et c'est de là que se redéploient des choses. Sans doute que le projet derrière tout ça pourrait paraître gauchiste, mais, ou en tout cas que souvent il ressemble à un travail syndical, parce qu'en fait, où que soient placés les gens, si on leur demande de redéfinir comment ce serait, si ce serait mieux, ben, ils se mettent à détailler sur leur propre champ d'expertise, de vie, comment ils savent très bien faire ce qu'ils font et qu'ils aimeraient bien avoir de meilleures conditions pour le faire. Donc voilà, c'est sûr qu'on travaille sur l'élan du changement social et de l'émancipation. Et après, en tout cas, dans notre expérience, ça a fonctionné avec beaucoup de personnes qui même pouvaient arriver en disant « Mais moi, je ne suis pas sûre d'être contre le capitalisme » ou de personnes en tout cas qui n'avaient pas l'habitude de faire un travail de réflexion collective et politique sur le sens de cette société.
Une particularité de Bâtir aussi, qui est évidemment politique, c'est le choix de l'avoir rédigé intégralement en écriture inclusive. J'aurais aimé savoir à quel moment ce choix s'est imposé à vous, disons s'il s'est imposé à vous, depuis le début, est-ce que c'est quelque chose qui est venu progressivement?
Je pense que ça fait... Donc qu'on se connaît depuis plus de 15 ans. Et je pense que ça fait 15 ans qu'on écrit nos tracts en langage inclusif. Alors du coup...
Ça n'a pas été une question.
Non. Par contre, on a discuté de quelle forme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on décidait comme choix, comme typographie précisément. Et on a fini par se mettre d'accord sur des E majuscules. Et qui, à la lecture orale, finalement, sont très agréables. Même s'ils font peut-être un peu... un quiproquo à des moments, mais du coup, repeuplons nos imaginaires aussi, où par défaut, les opératrices de télécommunications sont toutes des opératrices, pourquoi pas, à la limite.
Et on précise aussi en passant qu'effectivement, l'écriture inclusive n'est pas nouvelle. En ce qui me concerne, ça fait 30 ans qu'on l'utilise aussi dans les milieux d'extrême gauche que nous fréquentions assidûment. Maintenant, on est passé à droite parce que nous sommes propriétaires, mais avant, on les utilisait beaucoup. Donc effectivement, à mon avis, c'est pas exactement... Enfin, d'actualité, quoi. C'est juste quelque chose de naturel, tout simplement. Georgette, autre chose? Non? Kropotkin? Non, ça y est, ça suffit, ils ont tout dit. Non? Alors, le fait que ces dangereux activistes sèment la graine de l'égalité et de l'anarchisme au sein des gens qui ne sont pas forcément contre le capitalisme, ça vous choque pas?
Ça me répugne, mais j'ai quand même une dernière question. Est-ce que ce serait pour vous, ce serait envisageable de faire une suite à Bâtir aussi? Peut-être, moi, j'aurais pensé à quelque chose qui se passe peut-être encore plus tard, ce qui poserait peut-être des questions différentes sur, par exemple, le vieillissement des machines à laver.
Alors, on adorerait que tu écrives les prochains chapitres de Bâtir aussi. Non, je dis ça parce que c'est ce qu'on répond à tout le monde, en fait, dans la forme qu'on a choisie, notamment ce format nouvelle, notamment même que là, sans rien spoiler, que la dernière nouvelle ne finisse pas tout à fait, finisse sur un trois petits points. Il y a vraiment ce désir de dire, mais continuez, bon sang, continuez. Si vous avez envie de savoir où ces personnages vont, faites comme nous, tirez les fils, ils vont vous emmener quelque part. Si vous avez envie de savoir comment ils sont 10 ou 20 ans plus tard, retrouvez-les. Et le choix aussi d'être un auteur collectif, d'avoir choisi comme nom d'auteur les ateliers de l'Antémonde, c'est vraiment cette intention de dire. Mais si vous voulez endosser ce nom d'auteur pour contribuer et vous aussi écrire des histoires, faites-le. Donc voilà, c'est un des désirs qu'on a, notamment via le site internet sur lequel il y a... toutes les prochaines dates pour les labos qu'on va donner, revues de presse et compagnie, mais il y a également l'idée d'ouvrir une page de fragments où n'importe qui voudrait livrer un premier jet, 15 lignes, une idée, un dessin, une nouvelle plus construite, on pourrait la publier et puis voir Alors là, je vais m'arrêter un moment, le temps que le talkie-walkie de la sécurité repasse. Non, ça marche. Donc en tout cas...
Ils vous ont retrouvés, si ouais, je peux me permettre. Ils nous ont retrouvés.
C'est pas grave. Comme on disait l'autre fois, on est nombreux, on est organisés. On va rien lâcher. Donc, mais donc voilà, en tout cas, il n'y a pas pour nous, dans les tiroirs pour l'instant, le projet de rééditer un tome 2 venant des mêmes co-auteurs. Par contre, on continue à agiter les caves et les greniers et les salles de café, quoi, en disant mais faisons-le ou faites-le et d'essayer de se donner les moyens ensemble de pouvoir diffuser tout ça. Oui.
Eh bien, merci. On rappelle que les ateliers de l'Antémonde et l'anthologie Bâtir aussi est publié chez Cambourakis. C'est un petit peu la classe quand même. Cambourakis, c'est bien. Mangez-en. Merci beaucoup.